Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On se mercredi 20 décembre. On est en live jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa comme il se doit. 21h, 23h. À fond la caisse, tranquillement, avec à la réalisation Solal qu'on retrouvera jusqu'à 23h, c'est promis. L'équipe désinformée avec Adil Farkan, ça sera dès demain à partir de 19h. Au menu de cette émission ce soir, eh oui, on joue la 17e journée de cette Ligue Uber Eats, eh oui, le championnat de football français, avec Lyon qui doit reprendre encore 3 points, on l'espère en tout cas, sortir de cette fameuse zone rouge. Marseille poursuivre sa bonne série avec Aubameyang, son joueur phare du moment, et Paris, champion d'automne, faut le rappeler tout de même. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Tamsport. Le débat du jour, on vous l'expose, chers auditeurs et auditrices. Lyon, cette équipe est-elle sur la bonne lancée selon vous? Voilà, on se la pose cette question, on va en parler, on va en discuter, en débattre avec vous aussi, chers auditeurs et auditrices, au 01 53 48 3000. Sans plus tarder, je vais présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. C'est parti, go Tamsport.
Timesport. Timesport. Et pour parler.
Et ce soir avec moi, on sera en compagnie de Juba. Comment ça va, Juba?
Bonsoir Bilal, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Et en ce 20 décembre, j'en profite pour passer un gros big up à La Réunion. Ils fêtent la fête CAF, la fin de l'esclavage là-bas, quand ils célèbrent tout ça le 20 décembre. Donc big up à La Réunion et merci à toute la France d'être avec nous. Et on va parler foot évidemment. Et il y a du lourd, je crois. Tu nous as préparé du lourd, Bilou.
Eh oui, on a préparé du lourd aussi pour toutes les personnes écoutant ce soir Tamsport, les auditeurs, les auditrices et pas que. Tariq est de la partie aussi ce soir. Bonsoir Tariq.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tout le monde. Très content d'être là ce soir avant cette grosse journée, dernière journée de phase aller. Donc très très grosse émission je pense ce soir.
Eh ben on verra bien. On est avec Yacine ce soir. Bonsoir Yacine, comment ça va?
Ça va Bilal, ça va aujourd'hui parce que quand on mange un bon couscous à midi, ça ne peut être que bien.
Ouais.
Alors aujourd'hui j'ai mangé un excellent couscous dans un excellent établissement, il s'appelle Le Moderne.
Le Moderne.
Le Moderne, au métro Saint-Jacques, dans le 14e.
Métro à 14e.
Et franchement, Bilal,
Alors, on va
c'est
essayer
mieux que
alors.
Le couscous de la maman.
C'est
trop, là. Non.
C'est franchement,
celui qui mange un bon couscous,
avec Juba.
Je vous conseille Le Moderne.
Ok.
Boulevard Saint-Jacques.
Allez, le boulevard Saint-Jacques, c'est Le Moderne. Allez, voilà. Ben, ça, c'est vraiment merci pour la petite dédicace aussi à Yacine qui est avec nous. À la réalisation, c'est Solal. On retrouve Solal. Bonsoir Solal, comment ça va?
Buonasera à tutti. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs et chères auditrices. Ben oui, tout se passe bien. Franchement, encore une journée à Beurre FM dans cette quotidienne sportive à ne pas manquer. Franchement, on a été très très surpris par le nombre de personnes qui nous écoutent tous les soirs. Donc un grand merci encore à vous. C'est vous qui faites vivre la radio.
C'est ça.
J'ai un
il faut
petit
le
mot
rappeler.
Aussi.
Vas-y, appelez-nous. Allez, une dédicace.
Pour Anthony, à qui je passe le salam. Ouais. Et j'espère qu'il
Anthony,
va
le réalisateur qui est avec nous. Anthony, les glands de Nice. Oui.
Il aime beaucoup Yacine. Bien content. On le reviendra.
Ouais, ben, il est bien.
Forcément,
il est bien.
Parce que son équipe est en train de
rire. Franchement, l'équipe. Nice. Anthony, à qui nous pensons. C'est l'équipe, Anthony.
Ouais.
Anthony,
c'est l'équipe de
Nice. Hein. Ouais, c'est l'équipe de Nice, c'est ça. Mais Anthony, en tout cas, il est assez sympa. Anthony, notre ancien réalisateur, pourquoi pas le retrouver sur l'antenne de Beurre FM. Le 01 53 48 3000, on parlait de cette équipe de Lyon. Et oui, Lyon avec Sage. Ah ben là aussi, ça va très très fort. Hein. Ouais. Et on apprend aussi que Sage écarte encore 3 joueurs contre Nantes. On joue ce soir en Ligue Uber Eats. Tariq, Lyon, peut-être encore 3 points. Va savoir.
Il a écarté qui comme joueur?
Ouais. Ben ça, on les donnera à ces joueurs. En fait, c'était Sandio Mandé, Akuoku, ni Mama Baldé. Voilà.
D'accord.
Ça, c'était pour la réception de Nantes ce mercredi à 21h. Voilà pour les 3 joueurs.
Moi, je pense que ils peuvent être sur une bonne lancée, mais ça tient vraiment à rien du tout. Ça tient à pas grand chose pour le maintien de Lyon. Parce qu'on peut se dire que, oui, certes, ils ont fait un petit hold-up. À Monaco, ils ont gagné sur l'une des seules occasions, même pour moi la seule occasion concrète qu'ils ont eu ce match-là. Mais si ce soir il y a un mauvais résultat, malheureusement, je pense qu'on aura un discours qui est différent.
Pas mal.
Je peux comprendre que les gens soient assez optimistes, mais ça tient vraiment à rien du tout. Je sais que
comme le football va vite.
Ouais, ça va vite.
Je comme toute la Ligue 1. Hein. La
bien
Ligue 1 tient à rien du tout. Hein. Oui. Tu passes très vite des premières places aux dernières, quoi, non? T'es ouais, pas d'accord, Tariq?
Oui, oui, mais Lyon, c'est particulier. Cette saison, c'est particulier. Moi, je pense vraiment ouais. que leur effectif, il est pas mal. Ça reste un très bon effectif de Ligue 1. Mais je pense qu'il y a un souci mental et vraiment, c'est pas la victoire à Monaco qui va arranger les choses. Ils sont en train
de guérir. Hein. J'ai l'impression, Bilal, qu'ils sont en train de guérir justement de cette passe-là. On le sait, ils sont sortis de la zone rouge lors de la journée précédente où ils remontent maintenant à la 16e place du championnat. L'Olympique Lyonnais, c'est vrai, a connu un début de saison cataclysmique. Et ça, je pèse mes mots. On sait qu'il y a un contexte au niveau politique, au niveau de la gestion de cette équipe qui a conduit à cette situation-là, évidemment, avec tout le cirque qui a été ce rachat-là par Textor, tout ce qui a laissé derrière Jean-Michel Aulas avec les casseroles qui doivent trimballer. Ils ont été interdits de recrutement, on le répète, l'année dernière. Ils ont eu cette fois-ci l'aval pour recruter lors de ce mercato hivernal, donc ils vont pouvoir se renforcer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Lyonnais. Après, ouais. voilà, je pense que là ils sortent la tête de l'eau, ils sont sur une bonne dynamique, ils enchaînent là. J'ai l'impression que voilà, ils passent de la 20e à la 16e place, ils montent quand même. Et puis on sait que là, tu disais que c'est fébrile, mais toute la Ligue 1 est fébrile. Hein, donc
ouais, c'est toi qui le dis. Non, attends. C'est toi qui le dis, Jouba. Ah, mais moi, on en parlait déjà.
J'ai personne d'autre qui parle pour moi.
Oui, mais bien sûr, on le sait bien. Aujourd'hui, ça va, merci. On le sait bien, mais t'inquiète même pas. Même depuis la réunion, on sait que tu parles pour toi. Oui, Yacine, réaction. La Ligue 1 est faible, selon Jouba.
Oui, mais ça, c'est
Jouba qui le dit.
Je laisse Jouba responsable de ses paroles et de ses actes.
Alors,
moi, pour revenir un petit peu à Lyon, c'est vraiment dommage de voir quand même un des meilleurs clubs français des 20 dernières années se retrouver
à cette
position. Ils sont relégables. Après 16 matchs, ils n'ont que 13 points. On n'arrive même plus à comprendre ce qui arrive dans ce grand club, hein, qu'on le veuille ou pas. En France, Lyon fait partie de... C'est une institution. Et ce match contre Nantes aussi ne rayonne pas. Ils ont, au bout de 16 rencontres, ils n'ont que 18 points. Donc c'est un match très important. C'est Lyon qui gagne ce soir. Ils vont revenir à 2 points de Nantes. Donc ça pourrait les aider énormément de pouvoir envisager, on va dire, la reprise après les fêtes d'un autre œil. Mais aujourd'hui, quand je vois les prestations de Lyon, moi je... Les Nantais peuvent créer la surprise ce soir à Gerland.
Oui.
Mais au ce groupe pas une surprise d'ailleurs.
Je suis encore à Gerland.
Ça ne tient à rien. Après, il y a beaucoup de questionnements encore à se poser. Il y a la question de se poser savoir s'il garde ce coach-là. Pierre Sage, je sais qu'il a le soutien d'après
pour
ce
le moment.
Il a le soutien des joueurs, il a le soutien un petit peu de l'organisme lyonnais.
On approche du mercato hivernal aussi.
On approche du mercato hivernal. Moi, je pense que cette décision de savoir s'il y a un changement d'entraîneur ou pas, elle va être vraiment, vraiment très importante. Moi, je pense malgré tout qu'il faut garder l'entraîneur parce qu'il faut une certaine stabilité.
Ouais.
Avoir 3 entraîneurs sur la même saison, ça peut être très compliqué.
En trois mois, c'est vrai,
on ne se rend pas compte. Il y a à peine 4 mois de
la saison, elle est encore longue. Hein.
C'est vrai.
Juste, on va dire, les 30% de la saison. Hein.
Moi, je pense qu'il faut rester sur cette continuité-là, le fait qu'il ait la confiance des joueurs, que les joueurs veuillent qu'il reste.
C'est bien Boudel, qu'il ait soulevé le problème du coach à Lyon. Parce que quand on parle Grosso, on lui a pas laissé la chance de travailler.
Oh, quand même.
On peut pas constituer un club comme ça. T'arrives, t'trouves tout le monde sinistré,
sinistre à l'intérieur.
Oui, mais ça c'est ouais. toi. Quand on croit.
Et Lyon était 20e de championnat.
Les gens qui ont choisi Grosso, pourquoi ils l'ont ramené? Le problème, c'est les gens qui ont fait le choix de faire venir Grosso.
Parce que peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que la DNCG les prive de mercato l'été dernier aussi.
C'est grave ce qui arrive. Ça veut dire il y a une telle instabilité crucial au niveau du centre névralgique, les gens, les décisionnaires finaux au niveau de l'Olympique Lyonnais. Le problème, c'est eux. C'est pas le problème. Aujourd'hui, l'entraîneur, le coach là, qui assure l'intérim, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il sera là en janvier ou il sera pas là? Est-ce qu'il va avoir un nouvel entraîneur? Donc ça devient un club aujourd'hui qui n'inspire plus confiance.
De ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un manque de transparence au niveau de la transmission de Schlombo lorsque Textor a finalement décidé de d'évincer Aulas du poste de président du club. Donc il y avait cette menace de la DNCG, visiblement il n'était pas au courant notre ami Textor. Donc ça, c'est ça lui est quand même tombé dessus. Moi je suis désolé, à chaque fois
on tombe sur... Aulas, il a pris sa retraite.
Non, il a été mis de côté par Textor. Textor a été maintenu.
Il a été mis de côté rapidement que prévu.
Oui, plus rapidement que prévu. Voilà. Donc, il a quand même. Et c'est là que la sanction de la DNCG, par on ne sait quel miracle, évidemment, on le sait, hein, c'est le copinage de la Fédération de football. Mais, la sanction de la DNCG tombe complètement à contre-courant.
Mais c'est ce qui bloque. Pas, c'est qui a ramené Textor à Lyon.
Ouais. C'est un acheteur, il a vu, il y a eu une offre, il a candidaté.
Le club, avant que Textor arrive, appartenait à Aulas.
Bien sûr, il a vendu
la décision.
Bien sûr. On écoute Solal.
Et pas entièrement d'ailleurs.
Alors, Solal, une réaction.
Oui, tout à fait. Je pense que par rapport à Lyon, il y a quelque chose qui nous dépasse tous. C'est un club qui, enfin, c'est un des clubs qui fait partie de ces clubs justement qui ne peuvent pas pour moi descendre en Ligue 2. Tout comme le Paris Saint-Germain, Yacine, Monaco, Marseille, des clubs mythiques. Et il y a quelque chose qui va se produire, je ne sais pas quand, et j'espère le plus tôt pour eux.
Ça s'est produit déjà.
Pour moi, c'est pas encore assez marqué. Pour moi, Lyon, en termes de relégation, même s'ils sont pas très loin de la relégation, c'est quelque chose pour moi qui.
Ils sont relégables.
Ils sont pas relégables.
Ils sont relégables. Ils sont relégables, mon cher ami.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas loin. Ils sont pas loin d'être relégués, plutôt, si tu veux entendre ça comme ça.
Voilà.
Pour moi, il y a quelque chose qui dépasse le football et la Ligue 1. Lyon va se maintenir pour moi en Ligue 1. Après, moi, ce qui m'inquiète m'inquiète le plus, c'est que quand tu as des choses comme ça qui se produisent, c'est-à-dire qu'un club subit un manque de performance, un manque d'énergie sur le terrain et surtout un manque cruel de points, c'est en général quelque chose, une situation qui a des répercussions sur leur futur. Donc, qu'ils descendent ou qu'ils restent en Ligue 1, pour moi, ce n'est pas un problème sur le moment, mais c'est un problème à venir, justement, à naître, puisque tout simplement, Lyon va peut-être connaître une crise qui va s'étendre sur plus que la durée qu'on est en train de percevoir, qui est la durée officielle d'une saison, où la fin de la saison, on sera s'ils sont relégués ou non. Pour moi, ça va se poursuivre après, et ça va être très compliqué pour Lyon, je pense, de trouver ces armes-là dans le futur.
Et Lyon n'est pas relégable. Je viens de revoir, ils sont bien 16e avec 13 points. Donc Lyon n'est pas relégable.
Le coach Stolé qui nous a rejoint justement. Lyon.
Bonsoir, coach.
Bonsoir, le coach.
C'est un championnat 18 clubs. Il y en a combien qui descendent en fin de saison?
Deux. 18e et 17e.
Et 17e et 19e descendent.
Non, 18e et 17e
et 18e descendent. Après, il va y avoir des barrages
avec le 16e.
Donc aujourd'hui, pour répondre à Juba, Lyon sont relégables. Voilà. Quand on s'appelle Lyon, quand on est classé 16e dans un championnat qui compte 18 clubs, normalement on le prononce même pas quand on voit le budget du club, quand on voit le stade, quand on voit le public, quand on voit l'historique des 20 dernières années. Franchement, j'ai même pas envie de parler.
On va pas jouer sur les mots. La situation de Lyon, elle est catastrophique.
C'est une catastrophe.
On va pas jouer sur les mots. Et tout à l'heure, tu citais certains clubs. Lens sont descendus en Ligue 2. Ils sont restés pas mal de saisons. Ils ont galéré pour remonter. Il y a eu Monaco, il y a eu Nantes,
Marseille,
Strasbourg. Donc ça, c'est pas. Et le Paris Saint-Germain, à la dernière journée, ça s'est joué à un but d'Amara Diané. Ça s'est joué à rien du tout. Lyon, ils sont pas du tout à l'abri subir une situation similaire. Donc il y a pas leur trouver d'excuses.
Le coach de Tolé, pas d'excuses pour les Lyonnais.
Il y a pas d'excuses. La situation, elle est catastrophique pour eux, même s'il y a un regain de forme, comme j'ai pu l'entendre. Après, c'est vrai que quand tu gagnes, tu gagnes à Rennes, qui est pas bien non plus. Rennes n'est que 13e à 3 points de Lyon, mais tu gagnes quand même à Rennes et tu gagnes à Monaco. C'est quand même un signe que cette équipe a du caractère et peut être capable d'aller chercher le maintien maintenant. Maintenant, c'est sur la durée qu'on va voir. Je pense que ça va surtout se jouer. Le mois de janvier va être important lors de la reprise. S'ils sont dans la capacité d'engranger une série intéressante, je pense qu'ils en sortiront. Je crois qu'ils s'en sortiront parce qu'en fait, on se rend compte que les équipes qui sont devant eux ne sont pas si loin que ça, en fait. Là, il suffit d'une victoire même ce soir qu'ils sortent vraiment de la zone.
Oui.
Maintenant, l'environnement, comme je le disais en début de saison, pour un club comme Lyon, où on n'a pas l'habitude de gérer ce type de situation, peut leur jouer des mauvais tours, contrairement à des clubs qui, eux, sont programmés pour faire l'ascenseur. Des clubs comme le FC Metz, par exemple, ou Le Havre, qui, pour le moment, se maintient. Et là, quand quand t'es Lyon, bah voilà, ça pèse beaucoup plus lourd. Et là, bah forcément, tu subis les conséquences d'une mauvaise gestion qui dure depuis plusieurs
c'est
saisons.
C'est pour ça que le match de ce soir, il a une très grande importance.
J'ai quand même l'impression que l'électrochoc induit par le limogeage de Grosso a quand même un peu porté ses fruits. On le rappelle quand même, ils étaient vraiment au bout du bout, à lanterne rouge de ce championnat à 18 clubs, on le disait. Et là, depuis que Grosso est parti, ça montre quand même plus d'envie. Ils ont gagné là, donc ils ont piqué des points là. Donc 13 points avec Grosso, je ne sais plus à combien ils étaient.
C'est pas la faute à Grosso.
Hein. Ce truc d'électrochoc, moi, ouais. Je veux bien en fait. Qu'on remette tout sur l'entraîneur, je veux bien.
Non,
le comportement des joueurs avec Grosso, justement, c'est étonnant.
Souvent, Tariq, des fois, c'est pas la responsabilité de l'entraîneur, mais on vire l'entraîneur pour induire un électrochoc. C'est connu dans le football. Hein. C'est pas moi qui l'invente là tout de suite.
Pas que dans le football. Même dans les entreprises.
Je dis pas que c'était de la faute de Grosso, ça a été l'électrochoc. Ça a été un électrochoc.
Un management à la couscoussière.
Oui, à la couscoussière.
Grosso, il est resté combien de temps? Il est resté quoi? On a le sentiment qu'il est resté un mois.
Un mois?
Un mois, c'est quoi? C'est 4 matchs.
Et en plus, Claude, l'arrivée de Grosso a été précédée aussi par le traitement médiatique dont il a bénéficié. On l'a tout de suite taillé, cassé. On lui a pas laissé le temps. On l'a pas laissé souffler. On n'a pas.
C'est vrai qu'on a été un peu sévère, on dirait, avec l'entraîneur italien.
Quand tu es dans une situation, tu es dans le gouffre, tu arrives dans un club qui est malade, hein, qui est, on va dire, ils étaient dans le comme quelqu'un quand il fait un grand accident et il se retrouve à Nicaire. Aujourd'hui la situation de Lyon, c'est comme un malade qui est à l'hôpital de Nicaire.
Ouais. En convalescence. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices. On va revenir concernant cette 17e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Et oui, c'est l'avant-match sur l'antenne de Beur FM. On reviendra sur le Paris Saint-Germain, sans oublier l'Olympique de Marseille aussi.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beur FM.
Eh oui, c'est assez rare que Solane nous dise c'est quand tu veux qu'on parle de l'Olympique de Marseille. Ah ben justement, on parle de l'Olympique de Marseille. On savait pas, Jouba, que Solane était un grand fan de ce club, hein, de la cité phocéenne qui est Marseille. Eh oui.
Ça a pas l'air, ça a pas l'air.
20h18 sur l'antenne de Beur FM, ce mercredi soir. On va revenir sur justement cet Olympique de Marseille, l'avant-match de cette 17e journée de Ligue 1 Uber Eats.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, Tariq, il a été appelé à la rescousse par l'Olympique de Marseille pour pallier justement le départ de l'Espagnol ibérique Marcelino, Gennaro Gattuso. Et il est un peu dans, il est dans le move, Gattuso, hein, il est dans la hype, hein, tout comme Solal, hein, c'est ça. Il aime bien danser, gesticuler aussi sur le banc de touche, le coach Tolé. Bah, pour le moment, c'est bien.
La différence avec Grosso, c'est que. Alors moi j'entendais. Je suis pas en train de dire que l'OM produit un jeu extraordinaire, mais par contre le jeu limite on s'en fout. C'est-à-dire que moi je vois un truc.
Non mais. Alors laisse-le terminer.
Avant le jeu, il y a l'aspect psychologique et mental. Quand Gattuso arrive. Les gars, ils sont au fond du trou. Enfin, c'est-à-dire que le club, tu sors d'une situation compliquée avec cette histoire de supporters, etc. Et Gattuso, là, il apprenait, là où il prône justement son discours, c'est surtout basé sur la confiance, l'envie de jouer, de retrouver cette joie de vivre, le sourire et tout. Et donc, et rappelez-vous, même quand l'OM n'avait pas forcément des résultats au départ, les gars disaient quand même que on sent que ça travaille, qu'on est mieux, etc. Et sans être extraordinaire, bah ça porte ses fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que tu retrouves en tout cas cette envie de taffer les uns pour les autres, de faire le job, et ça passe déjà par là. C'est-à-dire que déjà dans les têtes, ça va beaucoup mieux. Et même si le jeu n'est pas flamboyant, tu restes quand même sur 4 victoires de suite en championnat. Certes, qu'on des équipes peut-être en difficulté, mais tu prends quand même 4 points. Et tu te retrouves quand même aux portes du podium déjà avant la trêve. Donc on sent quand même qu'au vu de cet effectif, il y a un bon effectif.
Tu
sens qu'il est quand même loin de son potentiel.
Attention à la canne.
Est-ce que ça suffira d'ici la seconde partie de saison et la fin de saison? On verra. La canne risque bien sûr malheureusement aussi d'affaiblir, mais le mercato de l'OM risque d'être particulier aussi. Mais chose est constatée que. Il y a clairement du mieux. On peut pas l'enlever. Sauf qu'il ne joue qu'une mi-temps. les Marseillais. Ça, c'est un problème.
C'est
ouais.
ça.
Ouais, mais juste, Claude, c'est très important. Tout à l'heure, on parlait de l'arrivée de Grosso, son départ.
Mmh. Alors
bah, à Marseille, quand Gattuso est arrivé, on a l'impression que les choses se sont stabilisées.
Oui. L'entraîneur italien est venu.
On a l'impression qu'il a, ça a permis un peu son, son charisme, sa personnalité. Enfin, fait qu'aujourd'hui, le discours a complètement changé. On a, c'est-à-dire le club, l'image de Marseille.
Oui, il a l'air plus.
Il focalise tout sur son, sur sa personnalité.
Il correspond à Marseille.
À l'instar de Guéret, ça à l'époque aussi.
On fait la comparaison avec Marcelinho. Il était éteint, Marcelinho.
C'est pas parce que Marcelinho peut-être n'a pas marché à Marseille que c'est un mauvais coach, parce que beaucoup de gens, ils ont tendance à juger. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas... Tu peux même pas gérer une cour de récréation de 5 gamins qui jouent au ballon, et on donne des leçons à des entraîneurs qui sont à très haut niveau, parce qu'ils comprennent rien du tout au football, parce que le football, pour devenir entraîneur, c'est un chemin. Il y a des gens qui ont joué au foot, ils ont étudié pendant de longues années. Il y a des gens qui ont commencé très tôt à étudier pour devenir vraiment entraîneur.
Tu peux avoir, comme dit, des environnements où tu peux réussir.
Il y a des gens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire un contrôle.
Parce que Marcelinho, juste rapidement.
Claude, pour que ça ne sorte pas de ma tête.
Allez, vas-y.
Aujourd'hui, je vois dans les médias, passe des, ça tape au niveau du genou, et ça arrive à l'attaquant, il marque, on dit passe des.
Ouais.
S'il faut revoir le béaba et la conception du football. Quand il n'y a pas un génie de la création pour donner un ballon, de mettre le joueur dans une situation où il peut marquer, ça c'est une vraie passe des. Une passe des. Si c'est parce que tu fais une passe latérale et que le gars, l'attaquant, il fait la différence tout seul et il marque, et tu dis c'est parce que ça a été le dernier passeur, ça devient une passe des. Donc aujourd'hui, le football, il est biaisé complètement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le football. Ils parlent football.
Comme qui ?
Pour revenir...
Énormément de gens, y compris dans le monde de la presse. Dans le monde de la presse.
Ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai que si on regarde le parcours de Marcelinho, clairement, ça a été compliqué. C'était certes compliqué malgré qu'il
Mais c'est un pistonné, les gars, il est arrivé parce qu'il connaissait l'Angoria.
Je veux bien, par contre, mais il est fautif quand même sur certaines choses. Moi, je suis désolé, quand t'as un effectif comme le sien et que tu le fais jouer, il était parti sur un système de jeu qui ne correspond pas
du tout à des champions, tu veux dire. Ils mettre en place un système de jeu. Les gens qui parlent de football, ils savent même pas c'est quoi un système de jeu.
Moi, je pense que c'était l'erreur de casting. Par contre, Marcelinho, que ce soit par rapport à la vie, par rapport au profil de joueur qu'il avait, par rapport à ce qu'il
peut-être s'il est resté 5-6 mois, il aurait pu mettre en place.
Non, mais tu sais, vision éliminé de la Ligue Marseille, des Champions, excuse-moi, Paris, mais c'est dramatique pour le
temps.
Ça doit aller vite.
On n'a pas le temps.
C'est vrai,
le Real de Madrid n'a pas donné le temps à Zidane.
Mais tu peux pas laisser le temps.
Il n'aurait jamais tous ces trophées. C'est
l'histoire de Marseille. C'est l'histoire des clubs comme ça.
C'est quoi Marseille
contre Macourt? Quand Macourt il arrive, c'est champion de
Trois-Soins. Mais il n'y a pas de pression, les gars.
C'est champion de Project. Il sort, il arrive, il fait le barrage en Ligue des Champions. Il se fait sortir par un club grec. C'est Panathinaikos en l'occurrence. Et donc, les supporters à qui on a vendu un champion de Project il y a maintenant bien longtemps avec l'arrivée de Macourt, ils pètent un câble. Je peux comprendre. Après, oui, je suis d'accord avec vous. Il aurait fallu lui laisser un peu plus de temps. Mais bon, on connaît aussi les conditions dans lesquelles il est arrivé dans ce club, avec du copinage avec Longoria. C'était un grand copain à lui. Alors que cet entraîneur n'a rien démontré en Liga. Je suis désolé. C'est pas une Coupe du Roi qui fait que tu peux venir entraîner l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est quoi ?
Il y a un siècle, on est en 2023, tu vas me raconter combien de clubs en France ont une étoile sur le maillot. On va revenir à la table de Marseille avec une coupe des rois. Les
principaux concernés ont dit que c'était une erreur à l'arrivée de Marcelinho, que ce soit Longoria, que ce soit Marcelinho lui-même. Ils ont dit eux-mêmes que ça a été une erreur.
C'est Longoria qui le dit.
Oui, oui.
Mais c'est lui qui l'a choisi.
Oui, bien sûr.
Donc
il a parlé de
casting chez Longoria.
Longoria a parlé de l'amitié qu'il avait pour lui. Donc je pense que ça a été un souci quand tu fais rentrer un petit peu cette proximité.
Vous savez bien que dans le monde du football, beaucoup de monde, dans le monde de l'entreprise, les recrutements se font souvent par proximité. C'est les gens n'ont pas d'affinité, ne se connaissent pas, ou l'agent ne connaît pas. Il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent au football. S'ils sont passés par le circuit normal, ils n'auraient jamais dépassé
le niveau des AGR. S'il y a de l'affinité et une cohérence sportive, je vais dans ton sens. Mais là, il n'y avait aucune cohérence, en fait. C'est ça le problème.
Et eux-mêmes le disent. Sortie
de nulle part.
Ma réaction, c'est que par rapport à cela, moi, je m'insère que Marcelino, en dehors de son parcours, son expérience ratée à Marseille, il est en Espagne considéré comme l'un des meilleurs techniciens. Voilà, c'est pas parce que tu n'entraînes pas le Barça ou le Real Madrid que tu n'es pas un bon coach.
Il faut juste de regarder le niveau de la Liga pour se rendre compte qu'il y a des techniciens de grande valeur.
Contexte d'environnement, et toujours est-il que visiblement il correspondait pas au contexte. Après, quand on parle de copinage, on en parle toujours de manière négative du copinage. Il y en a 90% dans ce milieu, d'accord.
Du
copinage, moi à la base, ça ne me dérange pas. Si le mec est bon.
Mais là, il sort de nulle part, le mec.
Non, mais il sort de nulle part.
Il sortait de Valence, je sais pas quoi. Mais c'est quoi le palmarès de ces clubs-là?
Tu connais Valence?
Non, mais bien sûr, je connais, Claude. À chaque fois, tu me parles en mode comme si je connaissais pas. T'as pas le monopole de la connaissance, voyons,
Claude. Tu connais Valence? Tu connais, c'est quoi le palmarès de Valence?
Tu connais Fégouli, Sofiane Fégouli? Bah, tiens, moi aussi, je peux te poser des questions. Tu connais quoi, toi? Tu connais? Bah oui, moi aussi, je connais.
Juba, t'es en train de parler de Valence. On parle pas de Valence dans la Drôme. On parle de Valence.
J'ai été au stade de Valence, moi, tu vois, des clubs
qui ont connu la Ligue des Champions il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc ça reste des gros clubs. C'est pas n'importe quoi.
Valence était dans le top 3
derrière le Real Madrid et le FC Barcelone il y a encore 10 ans.
Des grands joueurs contraires.
C'est pas
Valence.
Mais là, ils sont emportés.
C'est pas un club de Détroit, Valence.
Mais c'est un club moyen de.
C'est pas un club moyen, qu'est-ce que tu racontes?
C'est un club moyen, c'est pas un club moyen quand même. Valence,
c'est plus que moyen.
Non, tu abuses là.
Tu dis n'importe
quoi. Je crois qu'il n'a pas dormi hier. Il était devant l'Assemblée.
C'est quoi le palmarès de Valence?
Ils ont fait une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid en 2008.
Il y a pas longtemps, donc après, pour le moyen, ça va quand même.
Oui, on peut revenir au sujet, les amis. On parle de Marseille qui continue sa belle série. Moi, je peux que les féliciter. Franchement, ils reviennent des loin comme un boomerang. On aurait pensé s'être perdu loin derrière les arbres, dans la forêt. Et au final, avec du caractère, ils viennent s'imposer. Ils viennent montrer à 4 reprises. Et oui, qu'ils sont prêts. Yacine, s'il te plaît, félicitons Marseille. Et sur ces bonnes paroles, j'aimerais quand même vous faire une confidence, les amis.
C'est quoi?
C'est une exclue. Vous me connaissez pour mon support. Que dire, mon admiration pour le Parc des Princes, Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, je dois vous le dire, Marseille, l'Olympique Marseillais, c'est le premier maillot que j'ai acheté de ma vie.
Franchement,
toute ma vie, pour revenir sur un truc un peu plus sérieux, j'en ai déjà parlé un peu.
Allez, plus sérieux.
Les amis, il y a eu une guerre plutôt entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Et je pense que voilà, dans les temps que vit cette Ligue 1, je pense que Joubin me rejoindra. Là où on a connu une Ligue 1 qui était bien plus attractive que celle qu'on connaît aujourd'hui, il faut se supporter donc entre équipes. Et aujourd'hui, ça donne lieu à des Marseillais qui serrent la main des Parisiens qui serrent la main des Marseillais, des Stéphanois qui serrent la main des Lyonnais, des Lyonnais qui embrassent des Stéphanois, qui enlacent des Stéphanois. Donc, s'il vous plaît, mettez du respect sur ça aussi, c'est très important. On peut être en conflit dans un stade, mais à la fin, on se serre la main. Et voilà, tout ça pour vous dire que le premier maillot qu'on m'a acheté, plutôt, j'étais vraiment tout petit, mais c'était bel et bien le maillot de l'OM à l'époque. Il était noir avec des teintes verdâtres et orange.
On me l'a acheté,
mais j'étais tout petit.
Et Valence est 10e de Liga, les gars. Valence est 10e de Liga, donc pour un grand club,
mais je crois que Jouba, il a oublié.
C'est pas le problème.
C'est moi,
c'est pas le problème.
Lyon est relégable, c'est pas mal. C'est un des grands clubs français.
Moi, je dis que Lyon est très moyen aujourd'hui. Excuse-moi.
Aujourd'hui,
mais même Lyon, de manière générale, c'est pas un gros club, quoi. Ils ont fait le truc quand il y avait Gérard Rouillet. Quand il y avait Gérard Rouillet, l'épopée des années 2000, etc. Mais hormis ça, Lyon.
Non, mais attendez.
Mais ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions il y a encore 4 ans, il y a 3 ans.
Mais demi-finale.
Tu définis pas. Quand
des clubs français feront ça, tu pourras le dire.
Mais
le champion de France, il y a quelqu'un qui l'a fait, gagner le championnat de France 8 fois de suite.
Non.
C'est pas un grand club.
Je parle de maintenant, moi, les gars.
Mais Jouba, c'est pas sur 1, 2, 3, 4 saisons que tu définis un grand club. Tu définis sur un environnement, sur un panier, sur
des points de vue. Moi, je parle en l'occurrence sur ces 5 dernières années, quoi, pour rester un minimum cohérent.
C'est quoi le palmarès de Marseille sur ces 5 dernières années?
Finale d'Europa League, quand même.
Oui.
C'est pas mal, hein.
Non, ça fait 5 ans.
Ça fait 5 ans maintenant.
Et encore, même ça fait plus.
Alors attends,
Finale d'Europa League.
Oui, la finale
d'Europa League. Et en France?
En France, troisième place Project.
Troisième, deuxième, enfin,
Paris Saint-Germain. Il faut respecter les techniciens, il faut respecter les entraîneurs.
Évidemment,
à un moment donné, il faut arrêter de. Il y a beaucoup de philosophes dans le football, et quand on juge derrière cet entraîneur, c'est un être humain, c'est une personne, c'est quelqu'un qui est comme nous tous, mais par contre son QI football, il est énormément plus développé que la majorité des gens. Donc il se peut qu'il ne convienne pas à Marseille, ou qu'il est arrivé à un moment où c'était pas le bon moment pour lui à Marseille, mais le réduire à quelqu'un qui connaît pas le football. Parce que on écoute la radio française, on voit. Franchement, c'est juste de la honte. Hein.
Je vais juste te donner un exemple. On a dénigré Emery comme pas possible avec son passage au Paris Saint-Germain. Peut-être que ça a été une erreur de casting au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on lui a pas laissé assez de temps. Peut-être qu'on lui a pas donné les pleins pouvoirs. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. Mais regarde le travail qu'il fait derrière. Que ça soit avec Arsenal, que ça soit avec Villarreal.
Et maintenant,
ce qu'il fait en Angleterre, c'est un grand technicien.
Le seul qui passe par Paris, il n'a plus jamais pu rebondir, c'est Laurent Blanc. Tous les entraîneurs qui sont passés par Paris, ils ont eu la consécration.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est pour lui, hein. C'est pour notre Boula national. Hein.
Ah oui, c'est son anniversaire.
Voilà, c'est l'anniversaire à Boula, que tous ses souhaits justement se réalisent, Tariq. Hein. Tout simplement, aujourd'hui et pour toujours, un bon anniversaire à Boula. Justement, une journée assez spéciale pour lui, à qui nous pensons.
Il les fait pas, ces 30 ans.
Il a 30 ans, Boula. Voilà.
Merci Solal.
Voilà, c'est pour Boula, un bel et joyeux anniversaire.
Apparemment, la Vésie a été poignardée.
On va en parler, t'inquiète pas. On a parlé de Lyon, Marseille, et on va terminer avec la dernière partie de cette émission qui est Time Sport sur le Paris Saint-Germain. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission en compagnie de Yacine, de Jouba, Tariq et le coach Tolé. 20h et 36 minutes avant de retrouver à 21h Vanessa jusqu'à 23h. Chers auditrices et auditeurs, le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec l'équipe de Time Sport. Allez, le dernier dossier de l'émission.
Time Sport, le mode pressing.
Ah oui, ça sent les vacances pour Solal. Hein. Il est en train de se morfler sur l'antenne de Beurre FM tranquillement. C'est l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, hein, et de l'Argentine, Ezequiel Lavezzi, poignardé, hospitalisé du côté de l'Uruguay. Un petit mot de ça, ou tu voulais parler de la CAN? Parce que la CAN, on sera en time foot.
Je voulais,
Coupe d'Afrique des Nations.
Bien sûr, ça, c'est l'occasion de l'annoncer. Tu fais bien de le dire dès janvier, là. On a appris que Neymar serait pas à dispo pour la Copa América, qui se déroule en même temps que l'Euro en 2024. Ouais. Mais la CAN, toujours, qui n'est pas coordonnée, qui n'est pas inscrit au même moment sur le calendrier de la FIFA. Ouais. Et ça, je suis désolé, mais il faut le dire. En fait, il y a des clubs qui vont devoir se passer. La faute aux instances du football international, la FIFA.
Mais non, c'est la faute à la CAF.
Mais la CAF est coordonnée, dépend de la FIFA.
C'est la faute aux responsables africains, c'est à eux d'imposer leur calendrier.
La CAF dépend de la FIFA.
Oui, mais c'est la confédération. Oui, mais là, c'est pas la Coupe du Monde. Là, ça dépend de la confédération.
Il y a une espèce qu'on appelle en droit un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la FIFA a le dessus sur la CAF. Donc, normalement, il devrait
coordonner tout ça. Le patronat, c'est la FIFA. Mais là, c'est la CAF. Ça résulte, du continent.
Chose.
C'est comme l'euro. C'est l'UEFA.
Bien sûr, c'est
la CAF. Si tu subis le diktat de la Fédération internationale de football.
C'est pas un diktat, c'est normal. C'est l'instance suprême.
On sait ce que ça veut dire la FIFA, mon ami. Hein. C'est l'instance suprême du football mondial.
C'est à la CAF.
Et c'est à la CAF
de notifier ces dates.
Et toutes les fédérations,
c'est pas la FIFA, justement.
Toutes les fédérations africaines, de pouvoir, à un moment donné, se rebeller et dire stop. Voilà, on joue. Ils vont si la CAF veut leur imposer une canne en hiver, ils disent nous, on la joue pas. Tout simplement. Et ça va faire le débat.
Il y a aussi un truc au niveau des températures, je crois. C'est pour ça aussi qu'il la joue en hiver et pas la jouer en été, au soleil, etc. Mais il faut coordonner tout ça. Il faut que les gros clubs qui ont des gros joueurs africains ne se passent pas.
Il vient de donner la réponse à sa question.
Non, mais bien sûr.
Vas-y, mais tu vas intervenir.
C'est un élément de réponse.
Merci, Jouba.
En fait, alors moi, perso, pour moi, on s'en fout que ça se joue en hiver ou en été.
Jouba, non.
Non, pour moi, ce qui est important, c'est que la compétition soit respectée.
C'est ça.
Les sélections restent dans tous les cas au-dessus des clubs.
Ouais.
Donc que ça handicape les clubs, et ben tant pis, t'as qu'à pas recruter des joueurs africains, peu importe.
Ah, mais je veux dire. C'est quoi cette description?
Laisse-moi terminer. D'accord. Par contre, c'est pas au club, comme on l'entend chaque année, d'imposer le fait de laisser partir tel ou tel joueur, le faire partir au dernier moment, parce qu'il y a une compétition. Donc là, en fin de compte, on donne raison aux clubs européens dans ces cas-là. Laquelle qu'elle est jouée, quel est lieu en hiver ou en été, on s'en fout. C'est nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit bien organisée.
La FIFA a intervenu.
C'est ça.
Parce que la CAN ne se déroule pas dans une date FIFA, mais ça n'empêche, elle a obligé les clubs à libérer les joueurs pour les sélections qui jouent la CAN. Les clubs libèrent les joueurs, les internationaux pourraient aller faire cette compétition. Donc c'est juste pour éclairer.
Je vous coupe juste deux secondes. Je suis désolé parce qu'on en parlait en off et même toi, Jouba, tu voulais en parler. Je pense que ça nécessite de s'attarder un tout petit peu plus dessus quand même. Il y a un joueur qui a été poignardé.
Ouais, mais t'inquiète pas, on en a arrivé. On n'a pas oublié ce qu'elle l'avait dit. Et justement, lui, il a trouvé le contexte de Neymar et son indisponibilité
pour la Copa
de faire la Copa América. On va revenir justement sur l'ancien international argentin.
Merci. Parce que c'est vrai que quand on lance des infos comme ça qui sont lourdes comme ça, moi je trouve ça dommage de passer à un autre sujet.
Et les auditeurs nous écoutent aussi.
Et je dis pas ça parce que c'est un joueur qui est connu, qui a joué au PSG.
Non,
n'importe qui. Ça mérite plus que juste donner l'info.
Donc, le Paris Saint-Germain.
Oui, tout simplement, j'aimerais envoyer donc un message de force à sa famille. C'est forcément un joueur que vous connaissez, ceux qui nous écoutent, la plupart vous êtes donc français, parce qu'il a joué dans la Ligue 1 à l'époque, c'était la Ligue 1, je me souviens même plus comment c'était exactement le nom qu'il y avait juste après. Bon bref, mais en tout cas, vous l'avez déjà vu à la télé, et c'est pour vous dire que ce joueur-là, en plus d'avoir un talent, il avait un grand cœur, donc c'est encore plus triste qu'il ait vécu cette chose-là.
C'est festif aussi.
C'est de l'ex.
Voilà, on attend un peu plus d'informations, forcément, c'est très très frais. Au niveau santé médicale, on n'a pas eu encore énormément d'informations. Ça devrait tomber, on vous tiendra au courant. En tout cas, les gars, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais en tout cas, moi, ça m'a attristé quand j'ai reçu la nouvelle. Franchement, j'ai eu un petit moment de.
Poignardé et souffre d'une petite plaie perforante l'abdomen, ainsi qu'une fracture au niveau de la clavicule. Vas-y, le coach.
Ce qui est triste, c'est que ça arrive à quelqu'un, comme tu dis, un joueur que l'on connaît, qui a joué en Ligue 1, donc on connaît très bien Ezequiel Lavezzi.
Ouais.
Donc on espère en tout cas que qu'il va pouvoir s'en sortir
au début du projet.
Comme malheureusement,
il était poignardé pendant une fête, il paraît.
Oui, bien sûr. Après, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, sur cette planète, il y a tellement d'atrocités également. Donc au-delà de l'Avezzi, c'est toute forme de violence que l'on condamne.
Oui.
Voilà. Tous les jours,
c'est bien ça. Justement, le Paris Saint-Germain, on a parlé de l'ancien international de la Bisselasse qui l'avait dit. On revient aussi à ce Paris Saint-Germain qui rencontre, ça fera penser à Mouradin, le club de Meurthe-et-Moselle. C'est le FC Metz qui se déplace sur les terres parisiennes ce soir, 21h, du côté du Parc des Princes. Oui, Tariq, là aussi, tant de choses à dire. Système de jeu mis en place par Lucien Riquet, petite brouille avec un certain Kylian Mbappé. Là aussi, ce soir, le Paris Saint-Germain est attendu encore au tournant.
Il y a beaucoup de choses à dire. On va dire qu'il y a un petit bilan de mi-saison à faire. Déjà, je pense que il faut que les Parisiens gagnent ce soir pour prendre vraiment cette distance avec ses concurrents et être, être plutôt tranquille et se consacrer à la Ligue des Champions, à la reprise. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire sur ce Paris Saint-Germain-là, sur ce début de saison. Moi, pour moi, il y a un Paris Saint-Germain à deux visages.
Alors,
il y a eu le Paris Saint-Germain qu'on a trouvé en début de saison, vraiment, avec un, si je devrais ressortir un mot de ça, c'est le collectif. Collectif qu'on avait, on n'avait plus l'habitude de voir au Paris Saint-Germain. Le fait que les uns et les autres fassent les efforts pour l'équipe, le fait qu'il y ait des comportements qui ont complètement changé, le fait juste de voir des joueurs courir, en fait, juste de voir les joueurs courir, c'était quelque chose qu'on n'avait plus l'habitude de voir au Paris Saint-Germain. Il y a eu ce truc-là, ce petit renouveau. Et moi, j'ai à l'image de cette victoire contre Marseille, où tu vois que le Parc des Princes faisait la communion avec l'équipe. Et je trouve que après ce match-là, et après surtout la déconvenue qu'il y a eu contre Newcastle, ça s'est un petit peu effrité. La communication de Luis Enrique s'est un petit peu effrité. Ce qu'on a commencé à voir sur le terrain, ça s'est un petit peu effrité aussi. On a vu des comportements qui nous ont pas plu, surtout un comportement mettre en avant, voilà, le comportement de Kylian Mbappé. On a vu même le pressing de début de saison qu'on commençait à voir un petit peu moins. Et surtout, ce qu'on a commencé à voir, en fait, c'est le manque de continuité sur les compositions d'équipe de Luis Enrique, en fait. C'est ce qui me faisait un petit peu peur. C'est que le fait, à chaque match, en fait, il essayait d'inventer autre chose. Il n'y avait aucune continuité. Alors que c'est vraiment ce qu'on demande, en fait. Quand tu pars sur un nouveau projet, on peut taper sur les joueurs, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut de la continuité dans le projet et le fait que les joueurs malheureusement quand tu passes d'un match à l'autre avec un nouveau milieu de terrain ou avec une nouvelle attaque, ces joueurs là ils sont un petit peu perdus, ils sont un petit peu mis sur le fait accompli et ça devient un petit peu compliqué, je pense, et je pense que ça a été une faute de la part de Luis Enrique.
Le coach est tombé avec Yacine Eboula.
Après Luis Enrique a toujours eu ce type de fonctionnement, faut savoir, hein. C'est vrai qu'on s'étonne un petit peu en France et moi je l'entends, hein. C'est vrai que des fois on a vu des milieux de terrain qui ont été performants, on se demande pourquoi ça n'a pas été reconduit quelques jours plus tard, mais il a toujours fonctionné comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on connaissait son type de management
de Luis Enrique.
Après, voilà, quand ça marchait un petit peu moins bien, c'est vrai qu'on met l'accent là-dessus. Et le deuxième point, c'est que pour moi, que ce soit Luis Enrique ou un autre coach du PSG, moi j'ai le sentiment de voir souvent la même chose. C'est-à-dire que même les autres saisons où il y avait peut-être moins de solidarité, les débuts de saison étaient quand même performants. Moi je voyais des Paris Saint-Germain du mois d'août jusqu'au mois de novembre taper des équipes sur le score de 4-0, 5-0, etc. Pour moi, il n'y a rien de surprenant par rapport à ça. Et je pense que surtout, par contre, ce qui a fait la différence, l'état d'esprit, là, je te rejoins, c'est peut-être le départ de certains joueurs qui, forcément, peut-être dans un collectif, ne correspondaient pas à l'ADN du PSG, mais qui étaient redoutablement efficaces, même à 50%. Et je parle là, en l'occurrence, de Messi et de Neymar. C'est vrai que on peut peut-être ne pas avoir aimé leur passage, mais même ces mecs-là, en fait, faisaient des différences. Et aujourd'hui, en fait, seul Mbappé, qui en plus n'est pas à son meilleur niveau, fait des différences. Ça, pour moi, c'est un problème.
Alors,
je pense qu'il y a eu deux choses de dites. Je pense que là, il bricole parce que justement, Luis Enrique vient de l'école Ligue des Champions et qu'il rôde encore son, notamment au milieu de terrain, où, on le rappelle, il n'a pas été maître de tout son recrutement et notamment la mainmise aussi de Jorge Mendes au niveau du recrutement estival du côté du Paris Saint-Germain avec Luis Campos. Donc, il est en train de bricoler, notamment au niveau de ce secteur de jeu, parce que justement, il n'a peut-être pas tous les éléments. Et on sait que lui, sa philosophie, c'est d'être prêt. Comme tous les gros clubs, comme tous les gros coachs, pour le mois de février, là où il faut être décisif en Ligue des Champions. À l'inverse de tous les autres entraîneurs qui étaient toujours très très bons jusqu'au mois de janvier, et puis derrière se casser la gueule, 8e de finale, c'était fini. Ouais. Donc là, il a peut-être aussi des manques au niveau de son effectif. Et d'ailleurs, il y a une info qui est presque faite, le recrutement de Moscardo de là-bas du côté de Moscardo qui doit venir, c'est presque fait, le président de son club. Vous allez m'aider à le dire, parce qu'à chaque fois j'ai du mal à le dire, le nom du club.
Voilà.
Au Brésil, exactement, d'où est venu, d'où sont venus pas mal de gros joueurs. Je crois Lucas Moura, non, était venu de là-bas. Bref, il faudra que je revérifie. Ou en tout cas, voilà, donc Moscardo qui va venir renforcer.
Il est de São Paulo, Lucas Moura.
Ah, autant pour moi. Il y a quelqu'un qui est. Bon, bref. Ouais. Et donc.
Enchaîne.
Et donc, il va venir, Moscardo qui va venir renforcer cet effectif-là. Et c'est pas le seul du tout. Donc, ils vont aussi se renforcer pour être prêts en février, Yacine.
Juba alors. A trouvé quand même la parade pour utiliser le mot bricoler.
Ouais.
Trois ou quatre fois. Ça veut dire, à ce niveau-là, le coach du PSG bricole.
Et bricole,
il construit sa belle maison.
Ouais, moi, je suis content. C'est pas du bricolage.
Je suis content, Yacine.
C'est du premier, travail. Quand même. Faut savoir, dans on aligne une équipe en fonction de l'entraînement de la semaine.
Oui.
Donc, lui, c'est lui qui les entraîne, c'est lui qui est là, c'est lui qui voit, c'est lui qui est apte ou non pas apte à jouer. Donc je pense que c'est pas du bricolage.
Il y a des choses.
C'est de l'entraînement, c'est du travail.
Il y a des choses qui restent incompréhensibles. Quand tu passes par exemple,
alors c'est quoi
d'un moment où par exemple t'as Vitinha qui sort d'un énorme match contre Dortmund et les matchs d'après tu le vois il est sur le banc pour te mettre Kangingli. Par exemple juste avant le match de Ligue des Champions contre Newcastle, t'as Mukiele qui sort d'un très bon match.
Mon cher Tariq,
après rester sur le banc et depuis Mukiele on a l'impression que c'est plus un joueur de foot. Alors que t'as des besoins de ce côté-là.
Dans un staff, il y a plusieurs spécialités. Chacun, il y a le préparateur physique, il y a le préparateur mental. Peut-être que dans ils travaillent toutes les semaines, ils ont les résultats, les stats
vidéo.
Tous les joueurs physiques et tout ça. Peut-être
c'est pour ça que je dis bricoler.
Pour le coach, Vitinha n'est pas un joueur qui peut faire 40 matchs dans la saison. Donc c'est un élément peut-être qui est important. Il l'utilise. C'est la bonne utilisation.
Où je suis d'accord avec
alors, lui. Avec le Costolet,
Oui, c'est que c'est un coutumier du fait. En fait, il aime bien inventer. C'est un petit peu comme Guardiola, en fait. Il aime bien mettre sa patte et dire moi je suis différent des autres. Comme sa composition qu'il a mis contre Newcastle.
C'est pour ça qu'il est là.
Personne ne l'a compris.
C'est pour ça qu'il est là.
Pour qu'en février, avoir son équipe type.
Les
gars, moi, je suis pas d'accord avec Tariq. C'est pas une question d'inventer. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je suis plutôt d'accord avec Jouba qui dit bricoler. Je vais partir d'un point A pour aller à un point B après. Donc au début, ça va être un peu flou. Mais par exemple, quand vous installez sur un nouveau bureau, vous venez d'arriver dans une école.
Alors,
vous avez donc une trousse qui est posée, un ordinateur, un cartable, un cahier, etc. Il y a peu de personnes, et ça, qui vont justement dès le départ. Décider de mettre la trousse plus à droite, l'ordinateur un peu plus à gauche. Bah écoutez, la feuille, on va pas la mettre devant, mais un peu sur le côté, etc. Et en fait, le problème avec ça, c'est qu'il y a trop de gens qui s'installent à une table en prenant donc directement les éléments qu'ils ont sans les retoucher. Ils s'habituent à ça, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça marche plus en termes de créativité. J'aimerais finir.
Alors
et justement, je trouve que Enrique, il a pris directement ce play-là en début de saison d'aller chercher des joueurs par-ci, de les mettre ici, de pas les faire jouer, de tester plein de dispositions parfaites pour trouver position en fin de saison. C'est comme dans une voiture. Personne s'installe personne s'installe dans le fauteuil sans avoir fait des réglages, tourner le rétro. On n'est pas tous pareils avec une équipe forte.
Comment
tu trouves tes marques? Moi, je veux bien. Tu vois, là en ce moment,
on a
le débat.
On va acheter un bureau. Il va faire les tests.
Il est champion d'automne, les gars.
Il est champion d'automne, mais t'es le premier à dénigrer la Ligue 1. Encore heureux qu'il soit champion d'automne avec 300 millions dans le recrutement. Là, il y a le débat. Il y a le débat, par exemple, du numéro 9. On se pose la question pourquoi Mbappé joue dans l'axe. Mais tu n'arrives même pas à installer Ramos plus de deux matchs de suite. Tu n'arrives même pas à installer Colomouani plus de deux matchs de suite dans le poste de numéro 9, alors que tu en as recruté deux pour quasiment 150 millions. Donc, au bout d'un moment, je veux bien qu'on critique Ramos, je veux bien qu'on critique Colomouani, mais quand tu leur donnes pas de confiance, quand tu les fais pas enchaîner des matchs, alors quand même, ils sortent de bonnes
pertes.
Non, ils les ont achetés pour jouer dans l'axe. Pour moi, c'est pas un numéro 9, mais ils les ont achetés pour jouer dans l'axe. Quand tu les fais pas enchaîner deux matchs de suite, même après qu'ils sortent de bonnes performances, comment tu veux qu'ils aient de la confiance? Et je dis la même chose pour le milieu de terrain ou alors la défense.
Un grand merci au coach Toulet de m'avoir accompagné sans oublier Juba. Toi aussi, Tariq.
Merci.
Yacine, ça a fait plaisir aux auditeurs, aux auditrices de retrouver le coach Toulet, Yacine avec nous. Et aussi à toi, la réalisation à Solal. Vous retrouvez Vanessa, 21h, 23h. À demain. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.